Merci de me laisser ce temps de parole pour partager avec vous. Donc ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous sur Hébreux 12. J'ai été vraiment encouragé ces derniers temps en relisant l'épître aux Hébreux et je souhaitais vous en faire part. Et d'ailleurs, David, il y a 3 semaines, a lu en entier le chapitre 11. Et justement, je voulais prendre la suite et lire le chapitre 12. Comment dire, ce que j'aimerais faire ressortir vraiment de ce chapitre, c'est l'aspect du royaume inébranlable, qui est déjà là, qui est à venir, qui nous entend, qui nous attend, qu'on ne réalise peut-être pas toujours à sa juste valeur. Donc, je vais partager mon écran avec vous. OK. Alors, un royaume inébranlable. Et le but, c'est vraiment d'amener notre espérance, notre foi même, à son plein épanouissement, comme c'est dit en Hébreux 6, verset 11. Alors, je vais commencer par faire un survol rapide de la lettre aux Hébreux. Et en ayant vraiment en tête que tout ce qui était de l'ordre de l'Ancienne Alliance nous annonçait déjà les choses à venir. Tout ça était en préparation, c'était déjà sous-jacent, mais c'était l'ombre. Et aujourd'hui, nous avons part aux réalités. Et j'aimerais qu'on survole rapidement en introduction justement ce qui était de l'ombre, ce qui est des réalités aujourd'hui, pour qu'on touche vraiment combien c'est grandiose ce dans quoi on est depuis que Christ a accompli ce sacrifice à la croix et qu'il est ressuscité. Rapidement, on voit l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle comment le rang de fils est bien supérieur à celui des anges. Le fils Christ, il est assis à la droite de Dieu, alors que les anges, eux, qui étaient donnés, qui étaient envoyés de temps en temps pour partager des paroles à des prophètes, etc., eux restent des esprits au service de Dieu. Le fils a été temporairement abaissé et inférieur aux anges de son temps sur terre, comme c'est dit, bien qu'il soit pleinement Dieu, pleinement homme, mais éternellement couronné de gloire et d'honneur, et toutes choses lui sont soumises. Il nous est rappelé aussi que Christ est bien supérieur à Moïse, qu'il a été fidèle dans toute, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais Jésus, lui, il est l'architecte lui-même de cette maison. C'est vrai que des fois, on peut voir des belles maisons et se dire « Waouh, c'est super !» Mais on voit que l'architecte est encore plus important que la maison lui-même. Et là, l'architecte, c'est Christ. Christ, il est supérieur aussi aux prêtres, aux grands prêtres de l'ordre d'Aaron. On voit que dans cet ordre de prêtrise, il était nécessaire chaque année de ramener, de refaire les mêmes sacrifices pour les péchés du prêtre lui-même, mais aussi pour les péchés du peuple. Alors que Christ est appelé selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. On est maintenant dans un tabernacle qui n'est pas dressé par des mains d'hommes, mais par le Seigneur lui-même. Nous avons part à une nouvelle alliance qui est bien meilleure que l'ancienne, et il est dit qu'elle est gravée dans nos cœurs. Le sacrifice de Jésus, comme je disais, il est bien supérieur à celui de Christ, à celui, pardon, des boucs qui étaient utilisés pour les sacrifices, mais il est là pour nous offrir un salut éternel. Et la loi de Moïse était donnée comme une ombre des choses à venir, alors que Christ lui-même est l'image des réalités. Et dans Hébreux 10, il nous est dit de nous approcher du lieu très saint. Autant là où il nous est dit que si nous approchions de la montagne sainte, là où Moïse était quand Dieu lui parlait, il y avait un risque de mourir, même si on l'approchait. Et bien, désormais, nous sommes invités à nous approcher de ce lieu très saint, du trône de la grâce, et de nous y approcher avec assurance, parce que Christ est le médiateur entre nous et Dieu. Et donc, voilà, ça c'est un survol rapide de ce qui nous est dit dans les chapitres 1 à 10. Et c'est un petit peu comme si on avait cet enseignement, le principe qui est posé dans les 10 premiers chapitres. On a tout cet enseignement, ces exhortations. Et le chapitre 10 se termine avec ces mots « la foi pour être sauvée ». Je voudrais lire les deux derniers versets. « Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Et de là, nous avons le chapitre 11, que, comme je disais, David a lu en entier il y a 3 semaines de ça lors de sa prédication. Et c'est vraiment un ensemble d'exemples qui nous sont donnés, une nuée de témoins. C'est une mise en application pratique de cette foi par une multitude de témoins. Et là, je dirais, après tous ces enseignements, après tous ces exemples qui nous sont donnés, on a le chapitre 12 qui démarre. Et là, je dirais, c'est à nous de jouer. Et donc, c'est sur ce chapitre que je vais m'arrêter un peu plus en détail. Sur la perspective du royaume. Premièrement, je voudrais nous encourager tous à avoir des yeux fixés sur Christ. Alors, il nous est dit d'avancer. Et premièrement, nous allons voir où avancer, sur quel chemin. Alors, moi, ce qui m'encourage énormément, c'est de voir premièrement que Christ, il est passé devant nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons défricher le chemin. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons passer devant, mais Christ, il est passé devant nous. Il est dit au verset 2 qu'il nous a ouvert le chemin de la foi. Et ce chemin, nous avons à avancer, c'est vraiment le chemin de la foi, ce chemin de confiance, de relation avec Dieu. Ça me rappelait en relisant ce passage que Christ nous a ouvert ce chemin de foi, comment lors de la sortie d'Égypte, Dieu a ouvert ce chemin, d'abord en séparant en deux la mer pour qu'il puisse traverser d'un pied ferme à sec. Et puis il est dit qu'ensuite, pendant 40 ans, l'Éternel marchait à leur tête afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Et ce passage, vraiment, je trouve ça encourageant de l'Éternel qui est devant nous afin qu'on puisse marcher de jour comme de nuit. De jour, ok, des fois on pourrait dire c'est bon, on peut trouver le chemin tout seul. De nuit, c'était déjà plus compliqué. Mais là où ils étaient, dans le désert, c'était vraiment un environnement hostile. On peut complètement être déboussolé, partir, prendre n'importe quel chemin, se perdre. Mais Dieu, il avait un chemin précis pour eux. En plein jour, dans le désert, ils pouvaient être à la merci de leurs ennemis, de la chaleur, etc., de tous les dangers qu'il pouvait y avoir dans le désert, je ne sais pas, les serpents, les scorpions, etc. Mais Dieu était à leur tête dans cette nuée. Et la nuit également dans cette colonne de feu. Et marcher comme ça pendant 40 ans dans le désert, je me dis, waouh, quelle endurance, quelle endurance. Et Christ est passé devant nous. J'aimerais lire ce verset, toujours dans Hébreux au chapitre 6, verset 19. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau, dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. Et ce lieu très saint, c'est vraiment ce lieu qui était inaccessible. Il y avait un grand prêtre qui accédait une fois par an avec tout un rituel de grandes précautions, etc. Et vraiment, l'accès nous y était pas permis. Et aujourd'hui, nous avons cet accès parce que Jésus, il est passé devant nous. Il est le premier-né, le précurseur. Comment avancer maintenant? On sait où avancer sur ce chemin de foi, mais comment? Et il y a deux points qui nous sont précisés. Premièrement, avec endurance, puisque Christ lui-même a enduré la mort sur la croix, il nous est dit. Il nous est dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui était voilà, pleinement Dieu, c'est même surprenant qu'il ait eu à apprendre l'obéissance. Et il a appris, pas seulement dans la Torah, dans les Écritures, qu'il a appris, mais il est dit qu'il a appris l'obéissance aussi par les choses qu'il a souffertes. Et nous sommes encouragés dans ces choses-là, dans cette endurance, à ne pas nous laisser abattre par le découragement. Et pour cela, nous sommes invités vraiment à fixer nos regards sur Jésus, à garder les yeux fixés sur Jésus, comme c'est dit au verset 2. J'aimerais d'ailleurs le relire. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Plutôt, Jésus, dans son ministère sur terre, disait, et ça nous est rapporté au verset 22 du chapitre 6 de Matthieu, que l'œil est la lampe de tout le corps. Et là, il nous est rappelé cet œil, nos yeux, de les fixer sur Christ lui-même. Si nos yeux sont fixés sur Christ, alors tout notre corps est dans la bonne direction. Je crois que Henri, qui est professeur de conduite, qui est moniteur d'auto-école, pourrait certainement le confirmer. En tout cas, je me rappelle que c'est quelque chose qui m'a été dit dans mes premières leçons de conduite. Ton véhicule ira là où va ton regard. Et si je regarde dans le fossé, forcément, je vais m'en rapprocher. Si je regarde sur Christ, je vais m'en rapprocher, quelles que soient les épreuves qui m'environnent. D'ailleurs, il nous est dit, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout péché, de tout fardeau qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Christ. Et c'est ça, il y a de tous côtés le péché, toutes sortes d'épreuves, de tentations, mais gardons les yeux fixés, le cap fixé sur Christ pour aller dans la bonne direction. En deuxième point, je voudrais vous partager que nous sommes dans cette perspective du royaume participant de la sainteté de Dieu. Alors, jusque-là, moi, je dirais, ça me va d'avancer sur ce chemin de foi. Je dis, c'est hyper, hyper enthousiasmant, c'est encourageant et je me dis, OK. Et puis, en lisant le chapitre 12 en entier, il y a quand même des points. Au début, d'ailleurs, j'hésitais à les partager pour aujourd'hui. Parce que je me disais, c'est pas facile de parler là-dessus. Parler de la foi, d'être conquérant, de voir tous ces héros de la foi, je me dis, waouh, super. Et pourtant, le chapitre 12 est aussi complet en parlant des épreuves, de la correction, de la souffrance, même de la crainte de Dieu. Et je me dis, oh, ça, c'est des choses un petit peu plus difficiles. C'est écrit, alors on va en parler. Il est dit de supporter vos souffrances, elles servent à vous corriger, afin de nous faire participer à sa sainteté. Alors, premièrement, je voudrais m'arrêter un petit peu sur l'épreuve. J'ai souvent eu des difficultés à faire la différence entre l'épreuve et la tentation. Des fois, dans Jacques, dans Pierre et d'autres passages, il est parlé d'épreuve, des fois de tentation. Et on se demande, mais est-ce que je traverse une épreuve que Dieu envoie ou est-ce que je traverse une tentation où c'est Satan qui veut me faire tomber? Et là, justement, en préparant ce message, je me disais, bon, Ce serait bien aussi de voir quel est le mot en grec utilisé pour épreuve, pour tentation, pour voir quelle est la différence. Et là, mens, c'est le même mot. Une fois qu'il est traduit par épreuve, une fois traduit par tentation, on a le mot en grec qui est paresmo. Et je me suis dit, mince, je suis pas plus avancé. Je croyais voir plus clair en allant au grec, et là, j'arrive sur le même terme. Et si on prend ce passage dans Jacques, et d'ailleurs, je vais le lire dans Jacques, il est dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Et là, il est vraiment dit pour que notre endurance aille jusqu'au bout. Et il est même parlé plus loin de recevoir la couronne du vainqueur. Dans Pierre également, nous sommes encouragés à considérer ces tentations comme étant presque normales. Et je voudrais justement faire un petit peu un point sur... C'est vrai que la question de tentation nous renvoie davantage à cet aspect-là de l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous nuire, qui cherche à nous faire tomber. Et de notre côté, on peut voir dans l'épreuve que Dieu reste souverain au-delà de tout ça et qu'il veut nous rendre inébranlables, comme c'est rappelé dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et je dirais, c'est pas Dieu qui nous tente, mais dans cela, Dieu s'en sert comme épreuve pour nous faire grandir, pour nous rendre endurants. Dans Hébreux 12, il nous est dit... même que cette épreuve, c'est pour avoir la vie, pour nous faire participer à sa sainteté, quand il est question même de correction. Et Jésus lui-même, il avait en vue vraiment la récompense. Il avait en vue le but. Il y a l'exemple d'Ésaü sur lequel je voudrais revenir avec vous. Dans le chapitre 12, il nous est rappelé cet exemple. Et je voudrais le lire également. Qu'il n'y ait personne parmi vous qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Ce passage qui est davantage détaillé dans Genèse 25 nous rappelle que Ésaü, qui était un chasseur, est revenu des champs et il était épuisé. À ce moment-là, il était éprouvé, tant dans son corps, puisqu'il nous est dit qu'il éprouvait vraiment une fatigue certainement très intense, mais aussi dans son âme. Dans son âme, et je dis ça parce que on voit qu'il dit à son frère Jacob, je vais mourir. Donc ça, c'est pas juste une fatigue physique, hein, mais même dans son âme, il en vient à se laisser penser qu'il va mourir. Et donc là, il est prêt à n'importe quoi. Et il va vendre son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, ça nous parle moins parce que s'il y a, comment dire, des faveurs particulières aujourd'hui dans un héritage, eh bien, le notaire va rectifier des choses parce qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre. Donc, quand même, l'aîné, il avait un droit tout particulier. Et là, Ésaü, il vend à Jacob son droit d'aînesse pour un simple repas, pour un bon kebab, quoi, hein, pour un plat de lentilles. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand on lit ce passage, ça nous paraît tellement ahurissant. Et pourtant, des fois, on pourrait être un petit peu comme ça. Et ce passage d'Hébreux nous rappelle de ne pas sacrifier les choses saintes, comme il est dit, pour éviter l'épreuve, parce que dans cette épreuve, on va être amené à grandir. Et c'est vrai que dans ce passage, déjà, on voit que Ésaü, en fait, il s'est mis tout seul dans cette situation compliquée. Il aurait pu chasser, comme il aimait le faire, mais peut-être pendant moins longtemps. Là, il est allé jusqu'à l'épuisement. Et Ce matin, en relisant mes notes pour aujourd'hui, j'avais chanté vraiment cette parole et Dieu qui me disait, mais donne peut-être cette parole pour quelqu'un qui écoute ce matin. Ne te mets pas toi-même en difficulté. Ne va pas au-delà de tes forces face à la tentation. Tu connais tes limites, ne t'expose pas dans une situation où ce serait trop compliqué de revenir en arrière, de dire non. Et où là, tu serais amené justement à sacrifier ces choses saintes, ce que Dieu il a en réserve et qu'il t'a déjà donné. Et parce qu'on voit que de là, Ésaü, il cède à la tentation et au lieu d'en ressortir affermi, il en sort appauvri, sans son droit d'aînesse. Alors, on a parlé de l'épreuve. Je voudrais à présent parler succinctement aussi de la correction, puisqu'il en est parlé, alors parlons-en. Pourquoi la correction? Eh bien, tout simplement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la correction, pardon, est simplement un signe de notre filiation divine. Autant un papa, une mère corrige son enfant dans la chair, eh bien, Dieu corrige celui qu'il aime. Dieu corrige celui qu'il reconnaît pour ses fils. Autant moi, je ne vais pas aller corriger les voisins, les enfants des voisins, quand je vois qu'ils font des bêtises par-dessus de la clôture ou que je les entends dire n'importe quoi. Ce n'est pas mes enfants. Leurs parents sont là pour les corriger. Il n'y a pas de filiation entre eux et moi et je n'ai pas de légitimité pour les reprendre. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Dans la mesure où nous sommes ses enfants, il nous reprend. Il nous reprend pour nous élever vraiment, pour nous emmener plus haut. Et dans cette correction par laquelle on passe, vraiment, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a un but vraiment en perspective. Et deuxièmement, cette correction, ça m'a marqué en lisant, elle porte les caractéristiques du royaume. Je vais le relire toujours au chapitre 12. Il est dit au verset 11, certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste vécue dans la paix. Donc, on a ces caractéristiques d'une vie juste, une vie vécue dans la paix. Et ensuite, même si ça ne vient pas en premier, c'est une vie qui produit la joie, une correction qui va produire la joie. Et ça nous rappelait le verset 17 du chapitre 14 de Romains, où il est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Et on a le même ordre dans lequel ça nous est donné. Premièrement, la justice. Si on n'a pas la justice qui est établie par Christ, par la sanctification de nos péchés, par ce qu'il a accompli, qui nous a accordé cette justice devant Dieu, eh bien, on n'a pas accès à cette paix. Et sans cette paix, on ne peut pas non plus accéder à cette joie. Et je dirais que souvent, humainement, on est tenté de faire les choses à notre manière et du coup, dans un schéma un peu parallèle, mais opposé. Premièrement, on va chercher le plaisir au lieu de chercher d'avoir réellement cette paix, cette joie. Et ça va produire ce plaisir-là, une paix mais très superficielle. Ce ne sera pas la paix intérieure que Christ nous donne. Et pour ce qui est de la justice, eh ben, ce sera une justice humaine et selon nos propres valeurs. Alors que là, en acceptant vraiment cette correction qui est là pour nous encourager, pour nous élever, on est participant du royaume de Dieu. Le troisième point sur lequel je voudrais m'arrêter, pardon, c'est sur l'aspect inébranlable du royaume. Alors, tout à l'heure, je parlais de choses saintes, de ne pas sacrifier les choses saintes, comme il est dit. Et dans le verset 22, il est dit de quoi nous nous sommes approchés. il y a un rappel de ce vers quoi s'étaient approchés les Hébreux quand ils étaient dans le désert, de cette montagne sainte, des tonnerres, etc., et de la puissance que ça avait, et aussi de la crainte que ça inspirait. Et là, l'auteur nous dit de quoi nous nous sommes approchés. Et je voudrais nous le rappeler à chacun. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes, de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance et de son sang. Waouh! Voilà de quoi nous nous sommes approchés. Voilà le royaume dans lequel nous sommes. Et j'aimerais un petit peu sur de ces points, faire un petit zoom sur chacun. Déjà, nous sommes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion, en parallèle au Sinaï. Le Sinaï, c'était là où la loi avait été donnée. Et Sion, c'est, comment dire, vraiment en résumé, mais la ville du roi, là où le roi établit son royaume. On s'est approché de la cité qui a de solides fondements. On n'est plus dans le tabernacle qui était démonté, comment dire, qui voyageait, qui se déplaçait. On n'est plus dans des tentes de nomades, mais là, on est appelé dans cette cité qui a des solides fondements et à participer avec ces milliers d'anges qui célèbrent la gloire de Dieu, vraiment à participer à cette louange. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Et je dirais, le premier-né, c'est Jésus. Et nous sommes, nous, la multitude de croyants, de frères et de sœurs, eh bien, co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ, et vraiment, nous participons à cet héritage. Et il est dit que nos noms, ils sont inscrits dans le livre de vie. Et toujours dans ce passage, quand les Juifs sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, eh bien, Dieu a ordonné à Moïse de faire un recensement des premiers-nés. Et donc là, comment dire, le décompte a Mais aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui fait ce recensement des premiers-nés. C'est lui qui inscrit nos noms dans le livre de vie. Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance et avec lui, nous avons accès au Père. Et cet accès-là, c'est vraiment par son sang. Le voile a été déchiré et nous y avons accès vraiment par ce sacrifice qu'il a fait. Et par rapport au sang de Jésus, ça me rappelait aussi le sang de Abel. C'est le premier homme sur terre de qui le sang a coulé. Et Abel, il était juste. Et même les sacrifices qu'il faisait, plutôt les offrandes, pardon, pas les sacrifices. Il n'y avait pas encore de sacrifices, mais les offrandes que Abel faisait pour Dieu étaient vraiment appréciées de Dieu. Et là, son sang, il est dit qu'il criait vengeance. Alors que le sang de Jésus qui a coulé et qui, quelque part, est mort aussi injustement par la méchanceté, entre guillemets, de ses frères, des Juifs, mais là, son sang qui a coulé ne crie pas vengeance, mais il pardonne et il couvre une multitude de péchés. Et voilà de quoi nous nous sommes approchés. Est-ce qu'on réalise la dimension du royaume dans lequel nous sommes? Alors c'est vrai que une dimension que nous ne réalisons pas complètement parce qu'elle est à venir, mais c'est vraiment toutes ces promesses qui sont là, qui sont déjà présentes. Cette alliance, elle est déjà là et nous y sommes participants. Et moi, je me dis vraiment, quel impact? Quel impact pour mes choix, justement, quand je traverse ces épreuves, quand je traverse même des temps de correction, d'avoir les yeux fixés sur Christ, d'avoir comme Christ qui avait les regards fixés sur la joie qui lui était réservée plus tard, vraiment de garder en vue aussi la récompense qui nous attend. Et, il est partagé à plusieurs reprises vraiment qu'il y a des couronnes, des récompenses aussi après ces épreuves que l'on traverse. Et vraiment de les avoir en vue. Et toutes ces choses-là, je me dis, waouh, quel impact sur mes choix. C'est comparable le plaisir présent auquel je pourrais goûter en cédant à ces tentations ou en fuyant les épreuves. Est-ce que c'est comparable à la récompense éternelle? Est-ce que c'est comparable à la dimension de ce royaume? Et aujourd'hui, je suis né d'une semence corruptible, c'est vrai, mais on ressuscitera incorruptible. On est résident, temporaire et étranger sur cette terre, mais nous attendons une patrie meilleure, une cité qui a de solides fondements, inébranlables, et nous sommes appelés à avoir part à ces biens célestes. Est-ce que je préfère céder un plat de lentilles hein, contre vraiment ce statut de fils, de fille, participant vraiment du royaume de notre Père? Est-ce que c'est comparable ce confinement et même ce confinement terrestre, parce que à plus grande échelle, je dirais aujourd'hui, même spirituellement, enfin dans notre âme, c'est on se sent confiné aussi dans nos capacités sur Terre quand on voit comment dire quand on pourrait le comparer au corps glorifié qui nous attend et à la liberté céleste et éternelle qui nous attend. Et j'ai noté quelques paroles qui étaient dites ce matin, et notamment dans un des chants, les paroles disaient « En toi, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. » Jackie nous rappelait aussi que, de voir le Père vraiment face à face, alors que ce n'était pas possible avant. Marie-Thérèse aussi nous rappelait ces temps d'épreuve, et Mathieu tout à l'heure, Mathieu Barral notait que bientôt nous aurons un corps glorifié. Et je dirais oui, ces choses-là, nous devons les visualiser, nous devons nous en rappeler, parce que ce temps, que ce soit autant ce temps de confinement dans nos maisons, il est temporaire, même s'il est difficile. Ce temps sur Terre, c'est un certain confinement par rapport à ce qu'on pourra goûter éternellement et de continuer à avoir en vue vraiment cette éternité. Il est dit au chapitre 12 que tout ce qui peut être ébranlé disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Et tout ça, c'est vrai, va être quelque part secoué. Ça va être Dieu va rouler tout ça, ça va disparaître pour que quelque chose d'éternel, vraiment d'inébranlable, soit établi pour toujours. Et nous en serons participants. Et je voudrais vous laisser vraiment ce passage, le verset 37 du chapitre 10 d'Hébreux. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et c'est vraiment cette espérance, parce que Christ qui doit revenir, il nous est dit qu'il viendra et qu'il ne tardera pas. Et voilà, vraiment, je veux vous laisser cet encouragement à tous et à moi-même aussi à continuer avec cette espérance, à marcher sur ce chemin de foi qui est un chemin où, oui, il y a des victoires. Christ le premier a remporté la victoire à la croix. Il y a des épreuves qui sont temporaires. Il y a des temps de correction aussi, mais qui sont là pour nous faire grandir. Et le but, vraiment, c'est d'être participant de la sainteté de Dieu, d'être participant de ce royaume éternel et de glorifier Dieu aussi dans notre corps sur terre, dans tout ce que nous exprimons, dans notre corps, dans notre esprit, et vraiment que Dieu soit glorifié parce que les participants de son royaume sont aussi, il les a sanctifiés et ils sont appelés à être saints. Merci.
Merci Sam. Merci. Excellent. Je crois que c'est clairement d'actualité que de se dire qu'on est confiné dans nos maisons, mais que pourtant spirituellement, il y a une voie, il y a une route qui est ouverte devant nous et Dieu nous invite à y marcher, Dieu nous invite à y courir. Et je crois que c'est une belle exhortation ce matin de dire, mais à nous d'avancer, oui, par la foi, de marcher dans ces chemins qui sont ouverts devant nous. Après la Pâque, après que Jésus soit mort et ressuscité, le peuple d'Israël a traversé la mer parce que Dieu l'avait ouvert. Ils étaient confrontés à une épreuve, ils étaient bloqués et Dieu a ouvert la mer et les a invités à traverser. Et avec foi, ils ont dû marcher au travers de ça. Et nous, de la même manière, Jésus a ouvert un chemin pour nous et il ne nous invite pas juste à regarder ce chemin en disant « Merci Jésus, tu as ouvert un chemin ». Il nous invite à traverser le voile et à nous tenir dans la présence du Père. Et je crois que c'est une belle invitation ce matin. Merci Sam, pour nous tous de nous souvenir que mettons-nous en marche, continuons de marcher, ne nous arrêtons pas, continuons de courir, continuons de saisir avec l'exemple de cette foi qu'on voit dans Hébreux 11 pour marcher avec la même assurance dans Hébreux 12 au travers de tout ce qui nous attend. Et de nous souvenir que dans toutes ces choses-là, comme on a démarré ce culte, Dieu est plus que vainqueur. Et que parce que Dieu est plus que vainqueur, nous sommes nous aussi appelés les plus que vainqueurs en lui, grâce à lui. Donc merci Sam, et soyez tous encouragés, soyez tous renouvelés pendant cette semaine, encore, encore et encore, et continuons de mastiquer ce que Sam nous a donné. On va le mettre à disposition, comme d'habitude, hein, sur le site internet de l'Église, et puis sur la chaîne Vimeo qu'on a ouverte pour ces cultes en ligne.